d'origine espagnole. Et les Espagnols, nous avons aussi un rapport très particulier au monde des vaches. Mais la Suisse est, je dirais pas la Suisse, en tout cas, j'ai découvert la Suisse à travers l'alpage, ça c'est sûr. Et ça a été une expérience magnifique. Et je n'ai pas encore parcouru toutes ces significations possibles. Mais quelque part en moi, je suis émerveillée encore par ce que j'ai vu, par ce que j'ai vécu. Et puis, je ne sais pas par rapport à une identité suisse ou autre, je ne veux pas entrer en matière, mais en tout cas, c'est une expérience qui, la vie avec les vaches en haut dans la montagne, a transformé ma vie, ma personne. Pour moi, c'était une révolution culturelle. Et voilà.
Alors, bon, moi, jusqu'à très, moi, je sais pas, j'ai pas grande expérience de la vache en tant que citadine. Il est vrai que on a des vaches autour de nous, dans les prés de temps en temps. Par exemple, quand on vient ici à Ferney, eh bien, on est au bord de la ville et il y a plein de vaches. Par contre, on est capable de mettre des vaches au palais des expositions pour une foire, alors que dans un immeuble d'exposition, alors que les gens pourraient aller à la campagne. Moi, je vais à la montagne en tant que citadine, mais c'est l'expérience un peu limitée que j'en ai. J'ai jamais trait une vache, j'ai jamais dû la bousculer réellement parce que pour passer, c'est une expérience très lointaine comme ça par rapport. Et je me demande si les citadins et citadines effectivement n'ont pas une expérience aussi limitée que la mienne par rapport à la vache, et que du coup ils ont l'impression que c'est des grandes étiquettes qu'on leur mette. Parce, je sais pas, par exemple moi je me suis fait interpeller une fois, je me rappelle aux États-Unis en me disant mais quand t'allais à l'école t'allais sur le dos d'une vache. Ça me paraissait tellement invraisemblable. Je me disais non mais ces gens d'où ils sortent quoi, c'est pas. Et je me sentais en disant, mais on nous prend vraiment pour des imbéciles quand on nous pose une question comme ça. Et puis, en même temps, mais à force de me plonger par le biais de cette exposition, par le biais du livre qui est aussi sorti sur ce travail, eh bien, je me suis dit, mais c'est peut-être nous qui entretenons des images comme ça et qui fait qu'elles arrivent jusqu'au-delà des océans. Et c'est ce qui m'a donné envie de creuser un petit peu comment se crée tout un mythe et comment se crée une image comme celle-là. Et je crois que c'est l'objet de toutes vos recherches, enfin, si j'ai bien compris, Yvonne Preisberg.
Oui, alors moi je répondrai volontiers à ce que vous venez de dire, parce que au fond finalement, si c'est un symbole profond de la Suisse, c'est que c'est vraiment banal. J'entends ça, s'est inscrit quelque part très lointainement dans nos mentalités profondes, et que finalement cette vache, on n'y prend pas garde. Quand on traverse notre Suisse, bien sûr qu'on les voit dans le pâturage. Mais on ne se pose pas la question combien ça mange, combien ça produit, etc. Pour ça, il faut être paysan. Et je crois bien que, comme bien des choses qui s'inscrivent dans les symboles nationaux, ils sont là malgré soi. Ils nous interpellent quand on les interroge une fois ou l'autre, mais sinon, ça fait partie de cette vie qu'on a ici pendant 80 ans, chacun sur cette terre à peu près. Au fond, la vache, elle participe. Depuis notre plus tendre enfance, elle nous nourrit, on prend son lait, ensuite on mange ses produits, on a ses fromages, on va dans les grandes surfaces, on les trouve emballés de toutes sortes de manières, j'entends. C'est vraiment. La vache, elle nous nourrit depuis le départ et on l'intègre tout au long de notre existence à travers des produits. Et puis, elle devient consommation par l'image, c'est-à-dire que on prend le train, on voit un troupeau, une fois il est tacheté noir, une fois c'est des vaches brunes, etc., etc. Et finalement, elles sont là. Elles sont banalement là, je dirais qu'elles sont ordinairement là. Et c'est ce côté ordinaire de l'animal qui fait qu'au fond, finalement, probablement, on serait choqué s'il n'était plus là. Mais évidemment, quand on fait des études là-dessus, on en parle plus qu'on le ferait normalement, et c'est pour ça que ça prend tout à coup des allures très, très, très importantes par rapport à des études. Mais je crois vraiment que la vache, c'est un animal banal, ordinaire, qui est là comme dans une basse-cour des poules, comme un coq, comme un chien et des chats, etc. Et que ça fait partie de cette vie. Alors évidemment, avec la croissance des villes, avec cette séparation entre les villes et les campagnes, qui est toujours plus marquée, plus creusée, il y a un grand espace, un grand trou entre les citadins qui regardent la campagne et les gens qui vivent à la campagne. Et par exemple, moi, je suis descendante de paysans de montagne. Bon, mon grand-père était des Ormonts, il avait des vaches. Mes filles, elles ont peur des vaches, elles ne les approchent pas à 10 mètres, c'est pas possible. Pourtant, ça fait des années maintenant qu'on va à la campagne. Ça leur fait peur, c'est un gros animal. Et Dieu sait s'il est banal et Dieu sait s'il fait de mal à personne. Mais je crois que dans cette ségrégation ville-campagne, il y a quelque chose qui permet justement que se réactualisent des symboles qui sont fondamentaux, qui sont finalement assez simples. Vous pouvez dire quelque chose par rapport à l'espagnol et...
Oui, allez-y.
Non, mais je suis pas...
Oui, vous y êtes.
Ah, ça y est. Non, je trouvais que c'était très joli l'histoire que vous parliez de l'Espagne et des vaches tout à l'heure. Parce que tu disais qu'au fond, c'était très important en Espagne aussi, ce lien aux vaches. La race des reins en Valais, c'est cette race qui lutte, hein, qui combat dans les matchs de reines, etc., qui est une race tout à fait particulière. Et dans le mythe profond de la race des reins, on dit que cette race, ce qui est tout faux d'ailleurs, les archéologues l'ont montré, cette race venait d'Égypte. Elle serait montée par l'Espagne où elle aurait laissé les taureaux et serait arrivée en Valais. Et c'est pour ça qu'on explique le côté combatif de la race des reins à travers cette trajectoire qui serait bien archaïque et bien ancienne et qui fait qu'au fond, finalement, aujourd'hui, en Espagne, il y a les corridas et en Valais, il y a les matchs de reines.
Et en Valais, d'après ce que j'ai lu sur un des panneaux d'exposition, justement, les paysans valaisans, les éleveurs valaisans auraient été à un moment donné pris d'une passion funeste pour les reines. Et ça, je pense que c'est par rapport à ce que vous disiez au début, que ce soit les hommes qui s'occupent toujours des femmes. Pourquoi ce rapport de nouveau pardon, des vaches, oh là là, lapsus significatif.
Mais je peux raccrocher tout de suite là-dessus, oui. parce que avant de parler des rennes et de l'élevage des rennes pour la lutte en Valais, les femmes valaisannes, les femmes d'éleveurs valaisannes aujourd'hui, disent de leur mari qu'il est mieux qu'ils aient des rennes à l'étable plutôt que des amantes dont ils ne pourraient pas contrôler l'existence. Et c'est vrai que cette passion des rennes pour en Valais, elle existe depuis très très longtemps. Bon, les matchs existent depuis le début du siècle, mais les combats d'alpage ont toujours existé. C'est une race lutteuse qui, depuis les temps immémoriaux, ont toujours été sélectionnés par les paysans eux-mêmes pour leur côté combatif. Et finalement, aujourd'hui, dans un Valais qui n'a plus que très très peu d'agriculture réelle, l'élevage des vaches et des rennes pour les combats de rennes, c'est comme avoir des voitures de course dans une écurie de course. Hein, c'est-à-dire que les gens ont des vaches dans des écuries qui leur sont personnelles ou communautaires dans le but de participer à cette grande cette grande élevage qu'est la reine de combat, la vache de combat.
Claire-Annette Mussard, vous, vous êtes intéressée à la vache parce que vous y voyez aussi peut-être l'idée de faire un peu votre autoportrait, et vous êtes née sous le signe du taureau, dites-vous, et la vache a servi un petit peu à traduire les caractéristiques de votre personnalité. Mais je crois qu'avant tout, ce que vous aimez dans la vache, c'est qu'elle a un aspect de la féminité, elle représente la féminité.
Oui, la féminité aussi, bon, la gentillesse, comme disait Yvonne tout à l'heure. Les vaches, je les trouve très douces, quoi. Ce qui me frappe toujours, c'est ce mélange de force incroyable. On les voit faire des kilomètres sans problème.
Donc vous, c'est la reine lutteuse qui vous passionne.
Bah, elles sont marrantes, oui. Moi, je les trouve assez marrantes, ces lutteuses, parce qu'elles elles font ce qu'elles doivent faire pendant un moment. Puis après, elles sont là de nouveau. Leurs propriétaires s'en foutent de joie ou en rage. Enfin, c'est bon. Mais bon, moi, je ne suis pas une spécialiste des combats. Je ne suis pas encore entrée dans...
Non, mais vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de les approcher de cette façon-là, alors ?
Oui. Bon, c'est vrai que souvent, les gens du taureau, j'ai remarqué, aiment bien les vaches. Ils ont une sympathie pour elles. Ils se sentent assez proches, comme ça. Enfin, j'ai jamais vu des gens du taureau qui disaient que non, vraiment, les vaches ne les intéressent pas. Je fais beaucoup d'enquêtes. Et puis... Bon, alors, moi, donc, c'est... Oui, cette espèce de gentillesse et de pacifisme comme ça qui m'intéresse. Et souvent, j'ai vu des vaches et je ne vais pas dire leur expression, mais leur fatigue ou leur placidité comme ça. Je me revoyais assez bien en elles.
Oui, parce que vous avez choisi d'en faire, en prenant des photos de vaches, vous avez dit c'est un peu mon autoportrait. Ça veut dire que quelque part vous reconnaissez dans les vaches le fait qu'elles sont l'image des femmes ou de vous en particulier?
Des femmes quand même, non, je ne vais pas dire. Bon, on peut dire un peu de tout le monde. Hein. Enfin, plus ça va, plus je photographie des vaches et plus je vois l'aspect que ce sont des mammifères qui sont proches de nous, quoi, qui ont... assez proche de nous, et plus je suis choquée par exemple qu'on mange des vaches, qu'on les tue, qu'elles aient une vie qui soit si peu indépendante, c'est-à-dire elles naissent par insémination artificielle, après ça bon elles ont la vie que leur propriétaire veut qu'elles aient, et après ça leur mort c'est forcément l'abattoir, quoi. Donc et entre temps bon il faut qu'elles soient de bonnes laitières, qu'elles fassent beaucoup de petits, enfin si possible des petites. Bon, disons, plus ça va, plus ça... Enfin, plus je vois les vaches et plus ça me choque de voir cette vie-là. Moi, je leur donne plus de personnalité, plus d'importance. Bon, mais on en était où, là ?
À vous, peut-être, là.
Ah oui, à moi, donc. Moi, photographiant les vaches.
Oui, bon, alors, et vous, vous y retrouvant, vous mettant derrière elles. Puisque on peut peut-être choisir une de vos photos que vous avez sous les yeux. Là, ça va être un petit peu difficile pour la radio, mais on va faire un grand effort. D'essayer de décrire une de ces photos, une de celles qui sont exposées aussi à Conches. Et sous ces photos, vous mettez des commentaires. Et sous ces commentaires, vous vous exprimez à la première personne du singulier, là, en disant... Moi, je suis là avec ces petites jeunettes qui caracolent, c'est plus de mon âge. Donc, vous vous mettez dans une de ces vaches et vous vous exprimez par rapport à celles qui sont autour de vous ou bien ce que vous regardez et ce à quoi vous pensez.
Ou bien carrément la vieille vache que j'ai rencontrée une fois. Enfin, elle devait être assez âgée, qui avait un œil qui était borgne, qui avait les cornes assez râpées. Et qui boitait en plus, et qui a commencé à me suivre comme ça. Elle me suivait, elle léchait mon sac, et là je me sentais assez. Je me voyais assez vieille comme ça, dans un coin de l'alpage, et puis fascinée par quelqu'un qui passe. Bon, alors ça c'était donc mes grandes années. Mais ce que je préfère photographier en fait, ce sont des vaches qui sont dans l'herbe tranquillement. En train de manger ou de ruminer. Ça, pour moi, c'est vraiment l'image de la beauté même. Et ce que j'aime aussi, c'est ce groupe de vaches, donc de femelles, quoi. Et moi, j'aime bien ça.
Comme vous dites sous l'une des photos, couchée dans l'herbe avec ma copine Marie-Françoise, au soleil, tranquille, c'est le bonheur. On discute, on mange, on rumine, seules les mouches nous agacent.
Voilà.
Et moi, je reconnais assez Claire Annette dans les vaches qu'elle photographie. Je crois que ça, elle a raison de s'identifier à ça. Ça lui correspond assez bien. C'est vrai que la vache est un animal très pacifique, très tendre, finalement, avec des grands yeux qui vous regardent. Elle est chaleureuse, elle vient vers vous, elle manifeste, ou alors elle vous regarde passer sans trop s'émouvoir. C'est vrai que c'est un animal qui est d'abord beaucoup plus affectueux qu'on peut bien l'imaginer. Et moi, je l'ai vu dans les troupeaux familiaux. Et je connais un gars en Valais qui garde un troupeau de vaches à l'alpage. Il a une copine, c'est une vache. Et quand il l'appelle Juliette, Juliette, Juliette. Et puis elle est tout en haut dans la montagne. Elle arrive en plein galop jusque vers lui pour lui lécher la main. Et c'est tout à fait impressionnant à voir. Vraiment, il y a des comportements qui sont vraiment hyper affectueux entre les gens et les vaches. Et au fond, je comprends assez que Claire Annette, qui elle est citadine, donc qui a la distance suffisante à l'animal que n'a pas le paysan, qui pour lui c'est un élément productif finalement, qui doit être rentable au maximum, elle a la distance qui lui permet de s'identifier à un animal aussi bien qu'une mémé avec son chat et autres. Je crois que c'est du même... C'est dans le même sens personnel.
Harari, vous aviez réussi à créer des liens comme ça avec les génisses dont vous vous occupiez à l'alpage?
Non, pas à ce point-là d'appeler Juliette ou Mirette. Mais c'est vrai que c'est des rapports très affectueux. Moi, j'ai des images, des petits veaux qui me lèchent les souliers. Et parce que peut-être qu'il y avait un goût de sel ou simplement parce que ça les amusait terriblement, je ne sais pas, mais c'est courant quand tu te promènes dans ton troupeau de les passer les mains et de te faire caresser la main avec la langue, du fait que les rats peuvent, comme ça fait une drôle de caresse mais très douce parce que c'est extrêmement bon comme contact. Cela dit, on a des rapports très affectueux, mais on s'occupe de son bétail. Et puis, et bien, des fois, il faut mettre de l'ordre parce que s'il y en a 70 qui se mettent à faire les folles, alors même vous vous en sortez pas non plus. Et aussi, les vaches, les génisses en tout cas, elles ont un esprit, j'ai pu constater, assez grégaire, quoi. C'est-à-dire, elles font pas souvent preuve d'initiative. Et c'est ce qui est très, très flagrant en vivant avec elles, c'est la hiérarchie. Alors ça, c'est comme à l'armée ou presque. C'est moi j'ai gardé des génisses et puis on a toujours eu une vache pour le lait. Et alors la vache forcément était la plus vieille, était la reine du troupeau. Et puis c'était vraiment elle qui commandait et on n'emmerde pas. On ne vient pas tourner autour, allumage de son air ou à se placer à sa place à l'écurie ou comme ça. La vache, en général, avait une copine d'une génération plus petite, mais quand même assez proche d'elle pour qu'elle ne s'ennuie pas toute seule, parce que ça, c'est aussi extrêmement important. Elles ont un sens du collectif et du groupe très, très marqué. Et puis après, il y avait les génisses de l'année suivante. Et puis pour les mêmes propriétaires, des fois, on avait encore les veaux. Donc ça faisait trois générations. Alors, chaque groupe va de son côté. Ça ne se mélange pas, même du même propriétaire. Alors, si vous avez dans un alpage, en plus, c'est très courant, des propriétaires différentes, trois ou quatre, alors aussi, les génisses des autres propriétaires forment leur groupe à elles. Elles vont de leur côté pâturer. Et ça, c'est extraordinaire, mais ça ne se mélange jamais. Jamais, jamais vous aurez... les troupeaux ensemble et quelque part. Il y a vraiment des terrains très, très bien délimités, très, très bien démarqués. Et c'est comme ça que ça se passe.
Vous découvrez tout ça, excusez-moi, Vous découvrez tout ça en l'espace d'un été passé sur la montagne ou c'est après une longue vie avec les troupeaux qu'on comprend toutes ces finesses des relations?
Bon, il y a des choses qui viennent très vite et il y a des choses qui viennent, qu'on peut-être qu'on remarque, mais dont on ne découvre pas la signification, qu'après, ça demande quand même une certaine réflexion. Moi, je peux dire qu'après 3 ans, j'y connaissais un certain nombre de choses. C'était une connaissance pragmatique et brute et tout ça, mais c'était des choses, j'ai quand même, ouais, tu apprends, et puis c'est extrêmement bénéfique et pour les bergers et pour les troupeaux, parce qu'il y a aussi, il y a les rapports, cela dit, il y a des rapports splendides. Tu t'occupes des vaches comme tu t'occupes de tes enfants, c'est comme ça. Il y a des choses, c'est quand tu changes de prêt. Et c'est la folie absolue parce qu'il y a tout d'un coup, tu te vois, tu nages dans l'herbe, tu as de l'herbe jusqu'à la ceinture. C'est beau, c'est splendide, tu as envie de te mettre à quatre pattes, renifler les odeurs tellement c'est fou et les couleurs et tout ça. Et puis, tu as fait tes parcs et puis tu vas amener ton troupeau. Alors, il y a une chose qu'on craint terriblement, c'est qu'elles se mettent à manger, elles ne savent pas s'arrêter. Et ça mange, et ça mange, et ça gonfle, et ça gonfle, et ça gonfle. Et puis, tout d'un coup, tu te promènes là au milieu. Et puis, tu dis, non, c'est fini, c'est pas possible. Tu arrêtes de manger, tu prends par les queues. Et puis, tu l'amènes à l'écurie. Parce que, bon, c'est connu, c'est ce qu'on appelle la gonfle. Et puis, il faut percer pour que la génisse, parce qu'autrement, elle explose carrément.
Les indigestions des bébés, quoi.
Oui, oui, c'est quelque chose comme ça. Alors, voilà, c'est quelque chose que tu apprends. On te dit, mais tu apprends aussi. Tu vas, quand tu changes des pâturages, eh bien, tu fais ça. Mais... Et aussi, tu sors les soirs, par exemple, si tu as un beau troupeau qui a des belles cloches et puis qui a une belle résonance dans les pâturages, tu peux passer des heures couchées sur l'herbe à écouter les cloches. Puis ça sonne pas, parce qu'il faut que ça sonne. Il y a les sons qui est très doux, parce que ça mange. Alors c'est un mouvement des coups qui est vraiment très 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 doux. Et puis les fait d'avoir 70 cloches qui ont chacune à peu près une sonorité différente. Et puis surtout si tu as des belles cloches en cuivre avec des belles sonorités, c'est des choses qu'il faut vivre.
Voilà. En tout cas, il semblerait que l'expérience sur les alpages est extraordinaire. Peut-être une toute petite dernière question. Est-ce que c'est difficile de se faire accepter comme femme à l'alpage? Parce que Yvonne Pressberg le disait tout au début de l'émission, c'est rare que ce soit les femmes qui s'occupent, enfin qui soient réunies pour prendre des décisions et discuter à propos de vaches. Là, comment vous avez réussi à vous faire accepter par les autres bergers ou gardes d'alpage?
Alors, c'est vrai que c'est un monde très masculin. Le monde paysan, c'est tout à fait masculin. Mais cela dit, moi, il faudrait peut-être dire d'abord que au milieu des années 70, il y a une évolution en gruyère culturelle très marquée qui mérite, je pense, un jour, une recherche ou un approfondissement. Il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle les Pella. Et c'est les nouveaux bergers, des gens comme moi et comme d'autres, il y a eu des scandales, ça a été vraiment
qui ne sont pas la chronique.
Si, il y a des gens de la région, il y a des gens du canton de Vaud aussi. Il y a aussi eu des Français, mais ces gens-là, c'est des néo-hippies ou quelque chose comme ça, faudrait-il dire. Et puis tout d'un coup, il y a eu des scandales incroyables parce qu'à les marchés des Châteaudet, des hommes barbus se promenaient en robe. Et puis ça, pour un monde paysan, c'était mais trop pour la tête. Mais comme il y avait un problème des main-d'œuvre aussi, alors il y a eu une conjonction très favorable des gens jeunes et pas du milieu paysan qui sont arrivés là et puis qui ont, par affinité ou par volonté de toute façon de rompre un moule social existant, ils ont voulu être bergers, ils ont voulu travailler à la montagne pour être près de la nature ou des vaches ou comme ça. Alors là, il y avait déjà un choc culturel. Et puis, bien sûr, avec les Pella, il y avait des copines des Pella, il y avait des filles. Le fait qu'il y ait eu des filles qui faisaient des alpages toutes seules, ce n'est pas très très courant. Mais le fait qu'il y ait eu des couples, moi j'étais avec, je vivais avec un garçon, c'était pas non plus courant. Mais disons que chez les paysans, après ce qu'ils avaient vu, ils n'étaient pas à faire beaucoup de manières avec les filles. Et je crois que ça passait, en tout cas, ça passait bien. Et ça aurait pu, s'il y avait eu que des filles toutes seules, ça aurait pu passer, enfin, ça aurait peut-être pas passé, je ne sais pas.
Excusez-moi. Oui. Votre expérience, Yvonne Preisberg, par rapport à vos études, soit en Valais, soit en Gruyère, confirme ce que dit Ara. Il y a eu un changement ces derniers temps dans ces régions-là.
Oui, il y a beaucoup à dire sur ce que vient d'être dit, mais par rapport à ça, depuis une quinzaine d'années, il est vrai qu'on trouve des femmes dans les alpages, et il y avait toute la période où les gens venaient, les néos, comme on les appelait, ou les marginaux. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Moi, j'ai rencontré un étudiant en psychiatrie qui était sur l'alpage au-dessus de Vercorin. J'ai rencontré une Canadienne qui était dans un alpage à Fuilly. J'ai rencontré un type de Djerba, donc où il n'y a que des palmiers et du sable, qui faisait des fromages à l'alpage de Chandelin. C'est tout à fait exceptionnel. C'est vrai qu'il n'y a plus assez de gens du pays pour faire ce métier. Alors, il y a une distinction peut-être entre vache et génisse. C'est-à-dire qu'on acceptait plus facilement, disons, des gens qui venaient de l'extérieur pour garder des génisses, parce qu'après tout, les génisses, il ne faut pas les traire, il n'y a pas le produit à faire, il n'y a pas le lait à descendre ou à transporter, etc. Alors ça, c'est peut-être une différence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et même en Gruyère, et je connais un fromager français qui est depuis plusieurs années dans un alpage à faire le Gruyère d'alpage, c'est tout à fait accepté par la force des choses. On a introduit des gens de l'extérieur, mais aussi on a introduit des femmes. C'est vrai qu'anciennement, à quelques exceptions près, et elles ont existé, l'alpage était le royaume des hommes, hein, le royaume de l'Armaillie et le royaume des vachers, que ce soit en Appenzell, que ce soit ailleurs. Et on a quelques endroits où les femmes pouvaient monter à l'alpage, mais il y avait des interdits. C'est-à-dire que par rapport à la production du produit, du fruit, hein, il y avait le problème des règles. Et dans la société traditionnelle, on a toujours dit que les femmes qui devaient faire le fromage ne pouvaient pas le faire pendant les règles, parce que ça donnait un fromage qui ne se conservait pas, comme on ne pouvait pas faire boucherie ou toucher de la viande qui venait d'être bouchée parce qu'elle moisissait beaucoup plus vite, etc., etc. Alors il y avait ce côté taboué de l'interdit qui faisait qu'au fond, vraiment, c'était des lieux d'hommes. Et c'était aussi des lieux d'hommes parce que la solitude de la montagne était plus propice aux hommes plutôt qu'aux femmes qui, elles, avaient une crâlée d'enfants puis qui devaient nécessairement rester à la maison.
Oui, et aussi, il y a les côtés qui est quand même l'alpage. Enfin, moi, j'ai pris ça du côté absolument hermaphrodite et puis je n'ai pas regardé, j'ai fait des clôtures, j'ai descendu des sapins, j'ai fendu du bois, etc., etc. Mais c'est quand même un travail, il faut les faire. Parce que quand tu as des clôtures à faire au mois de mai à 1700 ou 1800 mètres et qu'il neige ou il neigeote et qu'il fait froid et que tu pars toute la journée pour faire tes clôtures parce qu'il faut qu'elles soient prêtes, parce que les bétails vont être là pour une série de raisons, c'est quand même un travail qui c'est dur. Et puis les femmes, bon, elles ont beaucoup travaillé, elles ont fait des travaux très durs, mais pour une série de raisons, ça a été, enfin, elles ont été exclues, je crois,